en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Tout au long de l'année 2011, lors d'une des séances de l'Académie des sciences morales et politiques, chaque académicien est invité à évoquer un sujet sur lequel il travaille ou sur lequel il a tout simplement envie de s'exprimer. Les sujets abordés sont donc très divers. Canal Académie vous propose d'écouter maintenant la communication de la séance du lundi 16 mai 2011, au cours de laquelle Bertrand Collomb, ancien PDG de Lafarge, a fait porter sa réflexion sur la notion de progrès. Peut-on encore parler de progrès ?
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, dans beaucoup de débats actuels, le thème du progrès est présent. Et l'idée même que l'on puisse parler de progrès est contestée. Mais quand j'ai proposé à notre Président de faire une communication sur ce sujet, je ne savais pas que l'Institut Diderot y consacrerait un colloque le 7 février dernier et que notre confrère Jean-Claude Casanova y traiterait en particulier de l'histoire de la notion de progrès. Je ne savais pas non plus que le tsunami japonais et ses conséquences sur les centrales nucléaires relanceraient le débat sur l'énergie nucléaire et plus généralement sur les risques technologiques. Mais tout cela donne encore plus d'actualité à la question que je voudrais me poser avec vous aujourd'hui. Peut-on encore parler de progrès ? Alors, quelques mots de définition d'abord pour essayer d'être un tout petit peu cartésien. Fondamentalement, l'idée de progrès suppose qu'il y a, dans le temps, une évolution dans une certaine direction qui ne se fait pas au hasard, qui n'est ni cyclique ni aléatoire et qui produit des situations considérées comme supérieures ou préférables aux situations antérieures. Alors l'existence d'un progrès, évolution directionnelle sur longue période, n'empêche bien entendu pas des variations de direction instantanées, aléatoires, elles, parfois en sens inverse de celles du progrès identifié. C'est pourquoi, pour apprécier l'existence de ce progrès, il vaut sans doute mieux regarder sur une assez longue période, en comparant des situations éloignées dans le temps, plutôt que de vouloir, et ce que parfois ce que nous voulons faire, mesurer à un moment donné la direction et l'intensité du changement instantané. Alors c'est ce que je vais essayer de faire, d'abord par un bref rappel historique, puis en examinant les différentes dimensions possibles de la notion de progrès. Alors c'est au siècle des Lumières que l'idée de progrès apparaît vraiment. Auparavant, la recherche d'une meilleure condition humaine n'était pas vue dans une progression vers l'avant, mais plutôt vers la recherche en arrière d'un idéal perdu. C'était l'âge d'or, présent dans de nombreuses mythologies, ou le paradis terrestre chrétien qui ne pourrait être retrouvé que dans l'au-delà. Mais au XVIIe et XVIIIe siècle, l'esprit philosophique affirme sa confiance dans la raison humaine et dans le progrès que celle-ci permet à l'homme. Pascal, dans le traité du vide de 1651, remarque que l'homme, je cite, « tire avantage non seulement de sa propre expérience, mais de celle de ses prédécesseurs, dont les connaissances, je cite toujours, sont toujours présentes dans les livres qu'ils nous ont laissés. C'est cette capacité d'intégration des générations successives qui explique que, je cite encore, « tous les hommes ensemble y font un continuel progrès à mesure que l'univers vieillit ». Francis Bacon a déjà exprimé en 1627 ce que le progrès des techniques apportera aux hommes, une jeunesse presque éternelle, la guérison de maladies réputées incurables, l'amélioration des capacités cérébrales, déjà. Condorcet, dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, qu'il écrit en 1793 alors qu'il se cache pendant la Terreur, formule la vision classique du progrès, prenant appui sur l'idée que, je cite, « les lois générales, connues ou ignorées, qui règlent les phénomènes de l'univers, sont nécessaires et constantes ». Il demande par quelle raison ce principe serait-il moins vrai pour le développement des facultés intellectuelles et morales de l'homme. Le progrès pour Condorcet se résume à, je cite, trois points importants, la destruction d'inégalités entre les nations, le progrès de l'égalité dans un même peuple, enfin, le perfectionnement réel de l'homme. Le progrès au siècle des Lumières, c'est donc d'abord un progrès de la connaissance et de l'expérience humaine, un progrès intellectuel. L'homme commence à porter sur l'environnement qui l'entoure un regard scientifique, débarrassé des a priori, de la superstition ou de la croyance religieuse. Mais c'est aussi un progrès dans le fonctionnement de la société. Et même dans les rapports entre nations, on pense voir des progrès. C'est Turgot qui écrit « Ainsi paraît-il que, dans ces derniers temps, la générosité, les vertus, les affections douces s'étendant toujours, du moins en Europe, diminuent l'empire de la vengeance et des haines nationales. Un optimisme que malheureusement l'avenir démentira cruellement. L'idée du progrès économique n'apparaîtra qu'au XIXe siècle, lorsque la division du travail et l'industrialisation modifieront sensiblement l'organisation économique des sociétés occidentales. Alors, chercher à mesurer la quantité de biens et de services dont disposaient nos sociétés au cours des siècles n'est pas un exercice facile, puisque dans les sociétés autarciques, l'essentiel de ces biens était autoconsommé et ne donnait donc pas lieu à un échange dont la valeur puisse être repérée. Cependant, l'ensemble des auteurs s'accordent pour considérer que ce produit économique n'a que très peu varié de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. D'après un économiste qui a beaucoup travaillé pour l'OCDE, Angus Maddison, le PIB, le produit intérieur brut mondial par tête, quasiment stable jusqu'à l'an 1000, n'aurait cru entre 1000 et 1820 que de 0,05% par an en moyenne, ce qui le conduit tout de même sur la période à augmenter de 50%, puis de 1,2% par an entre 1820 et 1998, ce qui correspond à une multiplication par 8 sur cette période. Ce taux montera à près de 3% sur la période dite des 30 Glorieuses, 1950-1973. Le choc pétrolier entraînera un ralentissement, mais les années 90 connaîtront à nouveau une forte croissance mondiale. Il faut bien sûr noter que la croissance économique du deuxième millénaire n'a pas été uniformément répartie, mais concentrée pour l'essentiel sur l'Europe occidentale et les États-Unis. Alors que l'échelle mondiale du revenu par tête était, semble-t-il, de 1 à 2 en 1500, elle est passée au rapport de 1 à 20 que nous connaissons actuellement. L'un des points importants qui caractérisait le progrès pour Condorcet ne s'est donc manifestement pas vérifié. Cependant, l'évolution récente suggère la possibilité d'un rattrapage des pays émergents, en tout cas de l'Asie, tandis que l'Afrique reste toujours en retard. La première question qui s'est posée sur la croissance économique est celle de ses limites. Peut-on imaginer une croissance indéfinie ? Jean-Baptiste Say donnera à cette question une réponse de principe positive, car si les ressources de travail sont limitées par la population, il y a une possibilité illimitée d'accumulation de capital. Marx verra au contraire une limite dans l'idée d'une rentabilité décroissante de ce capital. L'idée n'était pas absurde et a pu se matérialiser à certaines époques. Mais sur longue période, le progrès technique a introduit une nouvelle composante en augmentant la capacité productive à la fois du capital et du travail. L'épuisement possible du progrès technique est une possibilité évoquée maintenant, notamment par Benjamin Jones, un professeur de Northwestern University. Mais l'évidence empirique me semble plutôt encore à présent une accélération du progrès, en tout cas dans beaucoup de domaines. Dans les années d'après-guerre, lorsque la croissance exponentielle des produits nationaux bruts des pays développés s'est affirmée et que la population mondiale a manifesté une nette augmentation, la disponibilité des ressources naturelles est apparue comme un facteur limitant possible. Dans les années 60, le Club de Rome considéra que les ressources naturelles, notamment énergétiques, serait épuisé avant la fin du siècle. L'expérience a montré l'inexactitude de cette prévision. En effet, nos processus de production sont flexibles. Ils permettent des gains de productivité ou des substitutions des produits ou des matières premières utilisées. Et les techniques d'exploration et d'exploitation modernes ont permis de trouver de nouvelles réserves des principales matières premières. Nous avons donc actuellement, toujours devant nous, le même nombre d'années de réserves que nous avions dans les années 60. Les inquiétudes sur la concentration excessive de la production des terres rares en Chine entraînent immédiatement d'ores et déjà des explorations et des projets dans d'autres pays. Bien entendu, les coûts ont augmenté, comme dans le cas du pétrole. L'augmentation des prix de matières premières qui en résulte conduit alors logiquement à des substitutions ou à des gains de productivité plus importants, et la logique du marché semble bien jouer pour déplacer sans arrêt le front des ressources. La question de l'énergie, notamment du pétrole, s'est posée sous un jour nouveau, depuis que l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère a été constatée, avec la forte probabilité, sinon la certitude, d'un réchauffement climatique causé par l'activité humaine. Alors que certains avaient annoncé l'épuisement des réserves de pétrole dans les 50 prochaines années, on se trouve devant une perspective toute différente. Il faut remplacer ce pétrole par d'autres énergies avant même que la ressource ne soit épuisée. La seule énergie de substitution envisageable pour les transports automobiles est l'énergie électrique, à condition qu'elle soit elle-même produite à partir de sources autres que les combustibles fossiles, charbon, gaz ou pétrole, c'est-à-dire les énergies dites renouvelables ou l'énergie nucléaire. Nous reviendrons plus loin sur la question du risque dans l'énergie nucléaire. Mais on doit constater que même si tous les problèmes techniques ne sont pas résolus, la voiture électrique connaît actuellement des développements nouveaux. Une évolution qui paraissait encore impossible il y a 20 ans est en train de se produire. L'exemple du changement climatique est intéressant pour discuter les limites de la croissance, car il va obliger l'humanité à faire face à de très importants changements, avec soit un réchauffement général de la planète, soit un changement complet du cocktail énergétique consommé, soit très probablement une combinaison des deux. Ces changements sont sans aucun doute difficiles et coûteux. Ils entraînent déjà des débats et des oppositions entre pays, et notre organisation mondiale n'est pas encore préparée à faire face efficacement à ce type de questions. Mais dans une vision de très long terme, nous devrions être capables de surmonter les difficultés sans que n'apparaisse une limite à la croissance. De façon paradoxale, les contraintes nouvelles pourraient même déclencher une nouvelle vague de progrès technologiques et d'innovations susceptibles elles-mêmes de relancer cette croissance. La véritable difficulté sera surtout l'inégalité entre différentes populations dans leurs possibilités d'adaptation. Face à une montée possible du niveau de la mer, le Bangladesh n'aura pas les ressources technologiques et organisationnelles des Pays-Bas pour organiser une économie de polder. Et la technologie solaire est plus difficile à maîtriser dans les villages africains que le poêle à charbon ou le moteur diesel. Là encore, le problème principal est l'inégalité entre les pays. Enfin, la possibilité d'une croissance continue pourrait, selon certains, résulter de l'explosion de la population mondiale, elle-même engendrée par le progrès médical et l'allongement de la durée de vie. Mais l'expérience montre que le développement économique et celui de l'éducation entraînent automatiquement une baisse des taux de fécondité et une stabilisation, voire une décroissance de la population. Passer de 1 milliard en 1800 à 2 milliards en 1927, 4 milliards en 1974 et 7 milliards actuellement, la population mondiale a des chances de plafonner autour de 9 à 10 milliards. Une augmentation considérable, certes, mais qui, à elle seule, n'entraînera pas un blocage de la croissance économique. La croissance ne se voit donc pas vraiment fixée de limites. Et le progrès économique est actuellement le premier auquel on pense lorsqu'on parle de progrès. La mesure de la croissance du produit national brut est devenue l'indicateur principal de prospérité d'un pays et de sa population, dont il reflète la progression du niveau de vie et de la richesse. Mais la richesse fait-elle le bonheur ? L'identification du progrès avec la croissance économique et son indicateur, le PNB, fait l'objet de beaucoup de critiques. Le programme des Nations Unies pour le Développement a ainsi, à l'initiative des économistes indiens et pakistanais Amartya Sen et Mabul ul Haq, construit un indice de développement humain, IDH, qui introduit d'autres facteurs, notamment espérance de vie et niveau d'éducation. Et le roi du Bhoutan a défini pour son pays un indicateur de bonheur national. D'autres critiques ont été encore plus radicales, voyant dans l'accumulation de biens matériels non une opportunité de vie meilleure, mais un asservissement aux biens de consommation. La mise en accusation de la société de consommation a eu son heure de gloire en 1968. Elle est moins visible, mais toujours présente. L'homme est-il libéré ou asservi par les possibilités que lui donne le progrès économique ? La division du travail, l'industrialisation et l'urbanisation ont transformé en profondeur nos sociétés, remplaçant des communautés de proximité vivant largement en autarcie par des populations où les échanges marchands ouvrent beaucoup plus de possibilités, mais où les liens sociaux sont plus distendus. Est-ce un progrès ? L'exemple de la voiture automobile a été analysé par Ivan Illich, ancien prêtre, devenu le prophète de l'écologie politique. Et il relève le paradoxe de ce qu'il appelle la contre-productivité. Si on ne rapporte pas la distance parcourue par un automobiliste au seul temps pendant lequel il utilise son véhicule, mais qu'on y ajoute le temps de travail nécessaire à se payer cette voiture, on trouve que le nombre de kilomètres parcourus par heure consacrée à l'acquisition, l'entretien et l'utilisation de la voiture n'est guère, selon Illich, que de 6 à 7 kilomètres à l'heure, à peine supérieur à celle d'un piéton et sans doute inférieur à celle d'un cycliste. À quoi bon alors consacrer autant de temps et d'énergie à cet instrument ? Ce raisonnement d'intellectuel, sous son apparence de rationalité, n'est qu'un exercice de style. Pour la majorité de nos concitoyens, la possibilité, grâce à l'automobile, d'un déplacement individuel qu'il n'est pas nécessaire de programmer à l'avance est un élément de liberté qui va au-delà de son utilisation pratique. De même que nous acceptons l'essor d'embouteillage pour profiter de la liberté du week-end à la campagne. Il faut être le consommateur rassasié d'un pays déjà développé pour se poser la question de consommer moins. En échangeant moins de consommation et une vie plus simple, contre un peu moins de travail et plus de loisirs. Dans l'histoire séculaire de l'humanité, seule une petite minorité des hommes a pu avoir d'autres objectifs que la simple subsistance. Donner cette possibilité à une partie croissante des habitants de la planète, en leur permettant de choisir à quoi consacrer des ressources discrétionnaires, leur paraît et me paraît un progrès significatif dont on ne peut faire bon marché. La transformation des liens sociaux qu'entraîne la division du travail et la mobilité croissante est sans doute plus difficile à apprécier. L'homme est un être de relations. Comme dit saint Antoine de Saint-Exupéry, il n'est qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines. Et nous avons parfois le sentiment que le tissu de relations était plus riche dans des communautés plus stables, de taille plus réduite. Les institutions qui faisaient la trame de ce tissu de relations, la famille, l'école, le village ou la paroisse, ne joue plus le rôle qu'elle remplissait autrefois. C'est particulièrement vrai de la famille, dont les contours et le rôle social et humain se sont profondément transformés dans les 50 dernières années. La mobilité géographique a fragmenté la famille élargie, la fréquence des séparations a introduit le concept de famille recomposée ou de famille monoparentale pour conduire maintenant au débat sur la famille homosexuelle. L'Église catholique ressent douloureusement cette évolution sociale, contraire aux principes qu'elle a toujours sacralisés, et évolution qui, manifestement, pose des problèmes très sérieux pour l'éducation et la transmission des valeurs. Mais les anthropologues ou les historiens montrent qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité des conceptions très différentes de la famille. Et peut-on dire que l'hypocrisie puritaine de la bourgeoisie du XIXe siècle ou la pratique des monarques français du XVIIIe était, de ce point de vue de la famille, un optimum dont il ne fallait à aucun prix s'écarter? D'une façon plus générale, ce modèle de communauté de proximité, que nous parons rétrospectivement de beaucoup de vertus, était aussi celui où l'individu était pris dans l'étau des convenances sociales et peu libre de choisir son propre chemin. Les relations humaines de notre monde moderne sont sans doute plus distendues, moins denses, mais elles sont moins imposées et davantage choisies. Et la révolution numérique est en train de donner à chacun d'entre nous des possibilités d'accès à l'information et une liberté qui vont sans doute révolutionner les rapports sociaux au-delà de ce que nous pouvons imaginer actuellement. Je ne prétendrai donc pas qu'il y ait un progrès systématique dans ce domaine des relations sociales. Mais je soutiendrai volontiers qu'il n'y a pas une régression générale, mais de larges possibilités du meilleur et du pire. Enfin, pour apprécier si la croissance économique est un élément de ce progrès que nous cherchons à identifier, il faut aussi parler de ses objectifs et de sa direction. Le marché n'a pas de plan préétabli. Il confronte les désirs des consommateurs avec les offres des producteurs. Et l'évolution qui résulte de ces choix individuels n'est pas toujours celle que nos sociétés collectivement et par leur processus politique pourraient souhaiter. Les exemples de l'impact environnemental, de l'utilisation des matières premières ou des émissions de CO2, ou dans un autre domaine, celui de la montée des inégalités, viennent à l'esprit. Et ça sera sans doute le problème du XXIe siècle que de trouver un équilibre entre intervention publique et rôle du marché qui permette une nouvelle croissance que beaucoup qualifieront de croissance durable ou de croissance verte, mais que je préfère appeler croissance maîtrisée. Ce n'est a priori nullement impossible, car des instruments existent par lesquels l'action du marché peut être orientée et encadrée. Mais obtenir un consensus social sur une utilisation de ces instruments qui ne tue pas la poule aux œufs d'or est sans doute beaucoup plus difficile. Surtout lorsqu'il faut, pour être efficace, définir les objectifs et les moyens d'intervention au niveau mondial. L'enjeu pour que l'on puisse continuer de parler de progrès économique est donc d'établir une nouvelle gouvernance mondiale qui sorte du cadre traditionnel de 250 États-nations souverains. Dans une perspective séculaire, on peut constater les mouvements déjà faits dans ce sens, mais aussi l'insuffisance des résultats et l'urgence du problème. Alors j'ai longuement évoqué le progrès économique, largement identifié au XXe siècle avec le progrès tout court. Mais il nous faut revenir à ce qu'était le progrès vu par le siècle des Lumières, le progrès de la connaissance et celui de l'organisation de la société. Sur le plan de la connaissance, l'évolution des 50 dernières années a été impressionnante. Le progrès dans notre compréhension des phénomènes physiques, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, loin de se ralentir, s'est accéléré. Pourtant, la reconnaissance de ce progrès, et je dirais même le respect dû à ce progrès et l'enthousiasme qu'il devrait susciter, ne sont plus du tout ceux du siècle précédent. Plusieurs raisons expliquent sans doute cette distance prise par nos sociétés vis-à-vis de la science. D'abord, sa complexité, la complexité de la science. Le temps de l'honnête homme qui pouvait appréhender l'ensemble des connaissances de son époque est bien révolu. Une extrême spécialisation est devenue la règle nécessaire, et le non-spécialiste ne peut avoir qu'une compréhension limitée des derniers progrès, surtout lorsque, en mécanique quantique par exemple, il heurte l'intuition et les schémas de pensée classiques. Ensuite, l'évolution de la science elle-même. Elle est si rapide que les scientifiques doivent sans cesse nous rappeler qu'une théorie, même confirmée par l'expérience et les applications qui en sont tirées, n'est qu'un état provisoire de la connaissance qui sera modifié par la théorie suivante. Ceci encourage le relativisme. Et on oublie le fait qu'une théorie dépassée par une autre peut, dans le domaine qu'elle explorait, conserver sa validité pratique. La relativité ou la mécanique quantique n'ont pas rendu obsolètes les principes de Newton, et sa pomme continue de tomber avec la même régularité, même si les choses sont un peu différentes à l'échelle atomique. Enfin, le débat sur les applications tirées de la connaissance scientifique et les risques qu'elles peuvent présenter, débat sur lequel nous allons revenir, a créé une méfiance vis-à-vis de la connaissance elle-même. Certains ont tellement peur que l'homme s'engage dans des directions dangereuses ou interdites, comme en biologie par exemple, qu'il refuse même la valeur du progrès de la connaissance, indépendamment de ses applications. Le risque d'un retour au temps de l'obscurantisme, où mythes, croyances religieuses ou consensus social formaient un cadre dont on ne pouvait pas s'écarter, est ainsi réapparu. Mais le plus grand changement est probablement trait à la connaissance de l'homme sur lui-même et au développement des techniques qui pourraient lui donner le contrôle sur l'évolution de sa propre espèce. Même si on est encore très loin de comprendre ou de maîtriser complètement la complexité du fonctionnement du corps, et en particulier du cerveau humain, les progrès faits dans ce domaine sont considérables. Et ils ouvrent la voie à une ingénierie humaine, ingénierie créatrice par la manipulation génétique ou réparatrice par les greffes d'organes ou les prothèses technologiques. Certains pensent que l'homme atteint là, en pénétrant les mystères de la vie, une limite qu'il ne doit pas franchir. Soit parce que les risques d'une utilisation déviante seraient trop grands, soit parce qu'il attente là aux prérogatives du créateur. Ce débat mériterait un exposé particulier et je ne vais pas m'y engager. Je crois simplement que si des technologies peuvent produire des effets bénéfiques, refuser complètement leur utilisation par a priori philosophique ou religieux sera à la fois injustifié et surtout peu réaliste. C'est la façon de les utiliser pour éviter les déviances et limiter les risques qui doit être débattue plus que le principe de leur utilisation. La dernière partie de mon exposé est devenue encore plus actuelle après l'accident nucléaire japonais, accident ou catastrophe selon les points de vue, et concerne les risques du progrès. J'ai déjà évoqué les risques environnementaux. Ils sont importants, mais la plupart sont réversibles, et le chemin parcouru par les pays industrialisés montre qu'ils peuvent être maîtrisés. Oh, sans doute pas aussi vite et pas autant que les écologistes les plus ardents le désireraient. Il n'est encore guère attirant de se baigner dans la Seine. Mais la Nonette, ma petite rivière de Chantilly, a vu revenir les écrevisses. Les horreurs écologiques abondent en Chine, mais la volonté d'y remédier commence à se manifester. Et dans 50 ans, je suis persuadé que la situation se sera bien améliorée. Non réversible, par contre, sera l'extinction de certaines espèces animales. Mais des progrès sont actuellement en cours sur la diversité biologique, grâce à l'action mondiale d'associations comme le WWF, World Wide Fund for Nature, et avec la signature de la Convention internationale de 1992 et les différentes réunions qui suivent sa mise en œuvre. Non réversible pourrait être aussi le risque de changement climatique dont j'ai déjà parlé. En fait, à l'échelle planétaire et dans une perspective séculaire, un tel changement ne serait ni nouveau ni insurmontable. La grotte de Totavel montre que des hominidés y ont vécu depuis 700 000 ans et se sont adaptés tantôt à des climats glaciaires attestés par la présence de mammouths et de rennes, tantôt des climats tropicaux. Mais ils provoqueraient d'importants bouleversements dans les conditions naturelles et l'équilibre économique et social de certaines régions, avec sans doute des pressions migratoires encore plus importantes que celles que nous connaissons. Nous n'avons pas, je l'ai déjà dit, une organisation internationale en mesure de faire face à ce genre de défis. D'une part, pour prendre collectivement les mesures de limitation des émissions de gaz à effet de serre, afin au moins de ralentir le phénomène. D'autre part, pour organiser la solidarité nécessaire vis-à-vis de ceux qui sont le moins capables de s'adapter au changement climatique. Si le défi est considérable, la tâche n'est pourtant pas impossible. On peut voir dans les débats internationaux récents soit la preuve d'une faible probabilité de succès, soit au contraire les prémices d'une évolution de la gouvernance qui mettra l'humanité en mesure de traiter le problème. Mais il y a d'autres risques au développement technologique. D'une part, son utilisation par l'homme pour des fins intrinsèquement mauvaises, d'autre part, les accidents qui pourraient mettre en danger l'espèce humaine elle-même. Sur le premier point, beaucoup des philosophes qui ont abordé ce sujet, comme Hannah Arendt ou Hans Jonas, ont été très influencés par l'expérience nazie de la dernière guerre mondiale. Qu'une nation développée, au départ démocratique, de fortes traditions intellectuelles, puisse, sous le contrôle d'une minorité fanatisée, se livrer à un génocide méticuleusement planifié, a effectivement de quoi dépasser l'entendement. Et ce n'est pas le seul cas récent, où l'initiative humaine a entraîné des perversions considérables. Les cruautés de Staline justifiaient pour certains celles d'Hitler, Mao et Pol Pot ont montré ce qu'on pouvait faire dans un pays asiatique, et les atrocités de certaines hordes de rebelles congolais sont telles que je ne pourrais même pas les décrire ici. Cela veut-il dire que l'homme, lui, n'a pas fait de progrès, voire que ce que j'appelle le progrès l'a rendu capable de plus grandes perversions? Je crois effectivement que le progrès n'a pas fondamentalement changé la nature humaine. Nous savons depuis longtemps que l'illusion rousseauiste de la bonté naturelle de l'homme qui a conduit à culpabiliser nos sociétés face aux comportements déviants, n'est qu'une illusion. La fameuse expérience de Milgram, qui mettait des participants en situation d'en faire souffrir d'autres sur commande de l'expérimentateur, a montré que la majorité suivait les ordres de l'expérimentateur avec plus ou moins de répugnance, que seule une minorité refusait de suivre, mais qu'un petit nombre de participants prenaient au contraire plaisir à la situation et allait au-delà, dans la souffrance infligée à l'autre, de ce qui leur était demandé. Dans une autre expérience conduite à l'université de Stanford, qui recréait les conditions d'une prison, un tiers des étudiants jouant le rôle de gardien ont révélé après quelques jours des tendances sadiques qui ont obligé à arrêter l'expérience. Le progrès n'a pas modifié profondément la nature humaine, ce qu'un chrétien pourrait formuler en disant qu'il n'a pas effacé le péché originel. L'homme est toujours capable du meilleur et du pire, et le progrès peut, dans certains cas, lui donner les moyens que le pire soit bien pire. Mais la possibilité de ce pire elle-même est peut-être en train de changer par le développement des moyens de communication. Qui sait ce qui se serait passé si les Juifs entassés dans les trains qui les emmenaient dans les camps avaient eu des téléphones portables, ou si certains gardiens des camps avaient pu mettre des images sur Internet. La possibilité de la cruauté humaine n'a certainement pas diminué. Mais on peut se demander si, à terme, la capacité de l'exercer impunément ne sera pas affectée. Certes, les images du Soudan étaient disponibles et la communauté internationale a été incapable d'empêcher les atrocités qui s'y déroulaient. Mais cela lui donne suffisamment mauvaise conscience pour que les règles du jeu les plus traditionnelles, comme la non-ingérence dans les affaires d'un État souverain, soient remises en cause. Je ne prétends pas que les génocides ou les horreurs de tout genre ne pourront plus se produire. Mais sans reprendre à mon compte l'optimisme tout à fait prématuré de Turgot, je me demande tout de même si à terme, cela ne va pas devenir plus difficile. Reste la possibilité d'un holocauste nucléaire qui rendrait notre planète partiellement ou totalement inhabitable. Elle est moins vraisemblable maintenant qu'à l'époque de la guerre froide. Le risque est plutôt celui de groupes non étatiques mettant la main sur des armes nucléaires mal protégées. Le dégât entraîné pourrait être très important, mais resterait d'une dimension locale. Le risque global, lui, ne disparaîtra véritablement que lorsqu'un accord mondial de désarmement nucléaire aura été conclu. C'est un objectif difficile, mais qui n'est pas hors de portée. Enfin, les risques catastrophiques peuvent aussi être provoqués par des accidents dans l'utilisation des technologies, causés parfois, comme on l'a vu récemment au Japon, par des phénomènes naturels. L'effet des pandémies fait partie de cette catégorie de risques. Les échanges mondiaux peuvent rendre très rapide la propagation d'une nouvelle maladie, comme on l'a vu dans le cas des grippes aviaires ou de la grippe H1N1. Mais les capacités de détection, de compréhension et de réaction des techniques médicales sont aussi beaucoup plus efficaces dès lors que les autorités sanitaires des différents pays acceptent d'échanger des informations et de coopérer. De nature différente pourrait être la création involontaire d'un micro-organisme artificiel de forte nocivité et de capacité de reproduction rapide. Ce scénario pour film de science-fiction n'est pas à négliger si les manipulations génétiques se multiplient et si les règles de sécurité n'en sont pas bien respectées. Justifie-t-il vraiment leur interdiction alors qu'il est purement spéculatif? C'est autour du nucléaire que se concentrent actuellement les craintes et les interrogations principales. Nous avons besoin d'énergie pour faire fonctionner notre monde technologique et nous avons besoin de l'énergie nucléaire pour éviter l'émission de gaz à effet de serre. Mais il y a incontestablement un risque nucléaire, soit d'explosion qui aurait des effets similaires à ceux d'une bombe, soit de diffusion de particules radioactives à période longue qui peuvent avoir des effets à long terme sur notre vie. L'histoire des centrales nucléaires civiles depuis la première centrale de 1951 peut se lire de façon très différente. Pour certains, avec environ 500 réacteurs fonctionnant dans plus de 30 pays, avoir connu en 60 ans seulement 3 accidents majeurs, à Three Mile Island, à Tchernobyl et à Fukushima, montre que le risque du nucléaire est à peu près maîtrisé. Pour d'autres, cette histoire manifeste au contraire un danger latent qui aura un jour ou l'autre des manifestations plus graves. Reconnaissons d'abord que l'extraction du charbon a entraîné beaucoup plus de pertes de vie humaine, qui se compte probablement par dizaines ou centaines de milliers depuis qu'on l'exploite. Le nombre de morts résultant réellement de la catastrophe de Tchernobyl est encore fortement contesté, mais sera probablement entre quelques centaines et quelques milliers. Il est très difficile de chiffrer exactement les dégâts d'un accident nucléaire, car les effets des radiations, sauf le cas d'exposition énorme entraînant une mort immédiate, se manifestent au bout d'un certain temps et dépendent énormément des caractéristiques biologiques des personnes exposées. Ils se traduisent par des probabilités plus élevées que la normale, mais encore faibles, de maladies, notamment de cancers. Et on ne peut les caractériser scientifiquement que par des études épidémiologiques lourdes, sans être jamais sûr de démêler l'impact des radiations de celui des autres éléments d'environnement. Mais ce caractère invisible, retardé et mystérieux de l'effet des accidents nucléaires, loin de les rendre plus acceptables, et le fait qu'il peut frapper des gens éloignés des centrales également, les rend pour l'opinion plus difficiles à supporter, comme on peut le voir dans l'actualité récente. Mais en définitive, c'est toute notre attitude face au risque et l'arbitrage entre risque, prix et bénéfice attendu qui est en question. Notre désarroi conceptuel face à cette question est paradoxal, puisque jamais nous n'avons autant utilisé les techniques statistiques qui ont été développées beaucoup, notamment à propos des mathématiques financières. Mais si ces techniques permettent d'étudier le risque d'opérations répétitives dont les conditions sont connues et ne changent pas, elles sont à peu près impuissantes à traiter la question du signe noir, c'est-à-dire celle de l'apparition d'un événement totalement imprévu et considéré comme impossible par ceux qui n'avaient jamais vu que des signes blancs. La crise financière a montré que les acteurs les plus sophistiqués se sont laissés prendre à la fausse maîtrise du risque qui s'était développée. Le véritable risque est toujours celui de l'événement très peu probable, non prévu, qui bouscule l'expérience acquise et dont les conséquences peuvent être énormes. Dans son livre « Pour un catastrophisme éclairé », l'ingénieur devenu philosophe Jean-Pierre Dupuis, qui se place dans le fil des réflexions de Hans Jonas, soutient qu'il faut considérer la catastrophe comme inéluctable, même et surtout si on veut l'éviter. Le principe de précaution répond en théorie à cette question, en privilégiant, dans les cas d'incertitude, la sécurité à l'efficacité. Mais sa mise en œuvre est, comme le note Jean-Pierre Dupuis lui-même, entachée de nombreuses contradictions. Certains, en demandant la preuve de l'inexistence de tout risque, font de ce principe une application excessive, puisque cette preuve négative est par définition impossible à apporter. Il me paraît personnellement impossible de contester la nécessité, dans les situations incertaines, de prendre des précautions. Et il faut sans doute mieux prendre en compte dans nos études de sécurité les situations extrêmement improbables, mais à conséquences potentielles dramatiques. comme l'avait montré notre regretté confrère Maurice Allais dans son fameux paradoxe d'Allais, un calcul économique qui affecterait chaque événement d'une probabilité et optimiserait l'espérance mathématique n'est pas acceptable car il ne correspond pas aux réalités sociales et humaines. D'ailleurs, dans leur politique de sécurité, les entreprises vont bien au-delà de ce que serait un optimum économique et elles en font un instrument de progrès. Mais il ne faut pas pour autant, me semble-t-il, qu'une peur irraisonnée nous fasse remettre en cause la notion même de progrès. Alors, arrivé au terme de cet exposé qui m'a conduit à explorer les dimensions scientifiques, techniques, économiques, sociales du progrès et à m'interroger sur la capacité des hommes à en maîtriser les risques, il me faut revenir à la question de départ. Finalement, peut-on encore parler de progrès et croire au progrès ? Oui, non ou peut-être, comme le président le suggérait. Si le progrès est défini comme un long fleuve tranquille qui entraîne inéluctablement l'humanité vers des rives plus heureuses, alors on peut douter. Mais je préfère rejoindre certaines idées d'Amartya Sen et considérer que le progrès n'est pas une fatalité positive, mais qu'il ouvre des possibilités et des choix à l'homme, à charge pour lui de savoir l'utiliser sagement. Le progrès donne à l'homme plus de liberté, mais lui impose plus de responsabilité. L'avenir n'est pas déterminé, et le pire est toujours possible, mais le meilleur aussi grâce au progrès. On peut donc toujours parler de progrès, mais son avenir dépend finalement de nous. Car si nous ne sommes pas attentifs aux risques qui l'accompagnent, si nous ne savons pas gérer son environnement éthique, nous connaîtrons de nouveaux épisodes de perversion morale rendus plus dramatiques par le progrès technologique. Si au contraire, nous prenons peur devant la difficulté et le risque des changements qui l'accompagnent, en oubliant les bénéfices potentiels, nous pouvons tuer le progrès et revenir à l'obscurantisme et au conservatisme qui ont caractérisé certaines périodes de l'histoire de l'humanité. Alors, le progrès, oui, parlons-en.
Vous venez d'entendre Bertrand Collomb. Le texte de sa communication est disponible à la lecture intégrale sur le site de l'Académie www.asmp.fr.